Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 103. Nous sommes le mercredi, le 22 du mois de juin 2016 et c'est Christophe Rollin qui est tout seul au micro aujourd'hui qui vous parle. Isa est présent, Jérôme Salor est également là, notre invité, organisateur du festival La Tour Passagère, nommé Festival Musique et Théâtre. Il n'y a même pas de préposition, festival non pas de musique, non, festival musique et théâtre. C'est la deuxième édition, il a déjà commencé il y a de cela quelques jours, c'était le 10 juin, c'est jusqu'au... Non, je me trompe, écoutez, les dates, Jérôme nous les indiquera. En tout cas, une date qui est certaine, c'est celle du samedi 2 qui sera la date de clôture. Et pour commencer tout de suite à en parler, eh bien on va programmer ce qui sera la veille. Le quatuor Varèse jouera avec Samuel Fernandez, un quatuor de Debussy, même il y aura également un autre quatuor de Ernest Chausson. On va écouter un mouvement animé, le mouvement, comment est-il nommé même plus précisément, c'est le deuxième mouvement, assez vif et bien rythmé. C'est pour donc introduire ce festival La Tour Passagère, deuxième édition. Troisième, quatrième, elles sont à venir, Jérôme nous le dira. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien sur internet radiocadu.org. On commence en musique et on continuera également en musique et on essaiera de parler de théâtre, vous allez voir ça aussi. À parler. Bonjour Isa.
Salut.
Bonjour Monsieur Salor.
Bonjour.
Alors là, on est en train de prendre les choses un peu à l'envers. On commence par la fin, puisque ce que nous écoutions à l'instant, le quatuor de Debussy, il faudrait que j'en donne la version. Il est interprété par ici le quatuor, le Mélos Quartet. C'est extrait d'une compilation de Debussy. Et donc là, on commence par la fin, parce que normalement, ce qu'on écoute à l'instant, cet extrait, ce sera donné le allez, je feuillette la brochure, vous verrez, elle est très bien faite, cette brochure, sera donnée le vendredi 1er juillet à 20h30, un concert qui porte un nom, le nom de French Connection, par le quatuor Varèse, ainsi qu'avec Samuel Fernandez, pour jouer différentes œuvres, notamment des quatuors d'Ernest Chausson, ainsi que Claude Debussy. Donc ça, c'est presque la fin, ce vendredi 1er juillet. La toute fin sera le 2 juillet, avec la Typica Roulotte, un concert qui sera suivi par un bal tango gratuit. Je vous annonce déjà la prochaine pause musicale, ce sera du tango. Donc cette édition de La Tour Passagère, c'est la deuxième. Jérôme Salor, vous êtes déjà venu, émission numéro 14. Vous êtes venu au tout début, le mercredi, c'était le 20 novembre 2014. Et puis vous êtes venu également pour présenter la première édition de La Tour Passagère. Ça fait presque un an pile, je crois que c'était le mercredi 17 juin 2015. Vous êtes de retour, Vous avez la parole, je vous en prie, pour parler de cette deuxième édition, peut-être un peu revenir sur, l'origine et puis parcourir les premiers spectacles terminés avant de, d'évoquer ces concerts à venir.
Oh, d'accord, bien sûr. Ce festival, c'est avant tout une alchimie entre un objet qui est la tour en tant que telle, qui s'appelle la tour Vagabonde, puisque c'est un produit suisse d'origine. L'association qui tient cette tour en Suisse s'appelle l'association de la tour Vagabonde, et qu'on a rebaptisé la tour passagère pour la France, on va dire ça comme
les
ça.
Les exilés s'y sont produits, les ont créé Cyrano là-bas. Voilà, je comprends mieux.
Les exilés
mieux,
ont créé le Cyrano là-bas. Et c'est une alchimie entre cette tour et le lieu de Lyon dont on dispose, cette fameuse place Delphos, ce square Delphos, en bord de Saône, une espèce d'amphithéâtre avec des grandes marches en herbe, des arbres tout autour. Le lieu est magique. Si on a le temps, il faut absolument prendre les quais de Saône depuis Perrache vers la Confluence et aller jusqu'à la tour passagère. C'est un endroit magique. On y tient buvette, c'est à partir de 18h tous les jours. On y tient des apéros musicaux à partir de 19h, 19h15. Et il s'y passe tous les jours quelque chose de fameux.
Ouais, c'est quand même mieux de s'y rendre que prendre l'autre trajet que moi j'ai emprunté hier soir, métro Sainte-Blandine.
Le tram Sainte-Blandine, c'est pas mal non plus quand on vient d'un peu loin. Pratique. On s'arrête du coup au cours Charlemagne, il y a 5 minutes à pied, c'est facile.
Mais en tout cas, effectivement, marcher sur cette pelouse avec ces quelques arbres, c'est assez agréable, surtout par ces temps de très forte chaleur.
Il fait chaud depuis aujourd'hui.
Oui, ouais, c'est vrai. Voilà. Oh si, hier un peu ça commençait. Si, hier c'était une belle journée. C'est une deuxième édition. Cette première édition, pourriez-vous peut-être dresser un court bilan pour que nous attaquions ensuite plus précisément.
C'est toujours un tout petit peu délicat en cours de festival de faire le bilan de la fois d'avant, parce qu'on est meilleur à tout point.
Voilà, vous me donniez un chiffre tout à l'heure. Vous me disiez la billetterie.
50% de billetterie en plus par rapport à l'an passé. Mais cela dit, on partait d'une première édition totalement inconnue, de gens totalement inconnus. Je ne parle pas des artistes, hein, je parle des organisateurs, je parle du lieu en tant que tel. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont venus l'année dernière sont presque déjà tous revenus cette année. On était attendus un petit peu comme le loup dans un bois comme ça, et je pense qu'on a donné satisfaction à ces gens-là. Et qui plus est, d'autres sont venus, d'autres découvrent, et donc l'année prochaine, nous ferons encore probablement une plus grosse billetterie, une plus grosse affluence. C'est très bien, on est vraiment très 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 content.
Et d'autres reviendront, me disiez-vous, peut-être, ces exilés qui étaient sur Cyrano de ce samedi 18 juin la semaine dernière jusqu'à hier soir.
Ils ont tenu 4 soirs avec Cyrano Bergerac. Il y a eu 4 fois standing ovation à la fin. La salle était pleine.
C'était des rappels.
Absolument merveilleux, absolument magnifique. Et donc, mon petit doigt me dit qu'il n'est pas impossible que dans 2 ans, donc vous voyez qu'on commence à parler de long terme quasiment pour un festival qui débute, dans 2 ans, ils reviennent avec un Ruy Blas de Victor Hugo, et je pense que c'est absolument inouï et insensé ce qui va nous arriver.
Comment vous les avez trouvés, par exemple, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, ces exilés, cette troupe suisse qui donc avait créé ce Cyrano en 2014 à la
Absolument,
Tour Vagabonde.
Je les ai trouvés dans la tour, en fait. J'ai trouvé la tour, et en trouvant la tour, j'ai trouvé les exilés qui y étaient à l'intérieur au moment où j'ai découvert la tour. Donc c'est une espèce de magie qui s'est opérée une fois de plus.
Un spectacle incroyable, 19 comédiens. J'aime bien ça, cette idée de collectif. Ils ne sont pas nommés. J'ai le texte, enfin du moins la petite brochure distribuée. On ne sait pas qui incarne qui. On ne sait pas qui était Cyrano. On ne sait pas qui était Lebray. On ne sait pas qui était Roxane.
Cyrano, parce que c'est un individu remarquable. Il s'appelle Steve Ricard. Donc c'est un comédien suisse qui habite Lausanne et qui a fait cette mise en scène.
La mise en scène aussi.
Qui a fait la mise en scène, effectivement, qui a mis en espace dans la tour ce Cyrano d'une manière absolument majestueuse.
Le texte. Et presque en entier. C'est assez admirable quand même, parce que c'est dur de physiquement, ça doit être éprouvant. La soirée est assez longue, l'entracte est assez bienvenue, surtout hier, il faisait quand même assez chaud. Mais on reprend ensuite la deuxième partie, les actes 4 et 5, qui sont plus graves peut-être. L'humour des premières parties disparaît.
Beaucoup de gens sortent en pleurant, c'est magnifique. J'insisterai beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, en France en tout cas, il y a extrêmement peu de théâtres aujourd'hui qui se donnent les moyens d'accueillir une troupe de 19 comédiens et d'interpréter un texte dans son intégralité. On a cet avantage à la tour passagère de pouvoir organiser les choses comme bon nous semble, et ça me paraissait être important de faire des choses grandioses en termes de théâtre, grandioses.
Et est-ce qu'il y a des spectacles nouveaux par rapport à ceux que vous proposiez l'année dernière? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez rajoutées ou que vous avez enlevées?
À quel titre rajouter?
Par exemple, le concert de l'Hostel Dieu est revenu, mais pour autre chose.
Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de nouveaux. On a le Quatuor Debussy, par exemple, qui vient demain et après-demain, qu'on n'a absolument pas reçu l'an passé.
Ce sont des locaux, hein, c'est ça?
Ce sont des locaux. Oui, enfin, ils sont locaux, en ce sens qu'ils ont leur siège social, si j'ose dire, à Lyon. Mais c'est un quatuor d'une renommée internationale qui passe son temps dans les avions et les trains pour donner des prestations dans le monde entier, réellement. Et ce soir, on reçoit une troupe du Burkina Faso. Quelque chose d'assez extraordinaire aussi, puisqu'il revisite Candide de Voltaire. Il le revisite à la manière d'un petit garçon dans un village burkinabé qui s'intéresse de trop près à la fille du maire et qui est évidemment chassé, banni. Et l'histoire repart comme celle de Voltaire, comme celle de Candide. C'est un spectacle extraordinaire aussi que j'ai pu voir l'année dernière à Avignon et que j'ai récupéré, si j'ose dire, pour la tour cette journée, ce soir.
Et est-ce que c'est facile de passer d'un spectacle comme ça à un autre, parce que les univers sont vachement différents. On voit effectivement des spectacles africains, des spectacles européens, c'est très très varié.
C'est varié. Je trouve que c'est ce qui fait aussi le charme de notre temps de festival, c'est que on essaie d'être éclectique, on n'est pas spécialiste, on a aucune envie d'être spécialiste, on n'a aucune prétention à être spécialiste, donc on essaie de proposer au public des choses qui peuvent les intéresser dans les domaines les plus variés possibles. La seule chose qu'on ne fasse pas du tout, c'est de la danse, probablement pour deux raisons. La première, c'est que j'y connais rien du tout en danse, j'ai aucune culture, donc ça serait très compliqué pour moi de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et la seconde chose, c'est que la tour en tant que telle se prête assez difficilement à la chorégraphie.
La scène.
La scène est petite, il y a deux poteaux au milieu qui, pour le théâtre ou la musique, ne gênent pas du tout, voire même peuvent être utiles, mais pour de la danse, ça devient un petit peu compliqué, quoi.
D'accord.
Un critère peut-être vous dirige dans vos choix. Vous me disiez, hors antenne, en début d'émission, c'est ce critère qui peut toujours sembler un peu cuistre, pédant, élitiste ou je ne sais, mais néanmoins, c'est un excellent critère. Bien, précisément, l'excellence, c'est ça? Enfin, vous recherchez des choses d'immense qualité, de très grande qualité.
Voilà, tout à fait. Nous avons affaire exclusivement à des professionnels et à des professionnels de grand talent, qu'ils soient lyonnais ou pas, parce que j'insiste beaucoup, on a beaucoup de lyonnais de grand talent et j'essaie d'en programmer le plus souvent possible. Mais le but du jeu, c'est que les spectateurs ne soient jamais déçus de ce qu'ils voient. On a trop souvent affaire à des spectacles médiocres avec des gens qui finissent par se fichent un peu de ce qu'ils font et de pas donner satisfaction au public. Je ne peux pas imaginer ça, je ne peux pas tolérer ça. Les gens sont investis dans ce qu'ils font, les spectacles sont de très grande qualité et c'est ça qui fait que les gens sont contents. Entre le spectacle de grande qualité et la tour qui encense tout ça, qui transcende tout ça, on se retrouve dans des moments absolument étonnants.
Et est-ce qu'il y a un certain nombre de locaux que vous tenez absolument à voir?
Alors, que je tiens absolument à voir, non. Il y a un principe assez général, c'est que si des gens locaux ont des spectacles de qualité, je regarderai avec beaucoup d'attention et j'essaierai de les programmer, oui.
Vous leur donnez une certaine priorité ou
j'essaie de leur donner de la place pendant le temps du festival, effectivement. Et c'est important parce que ces artistes locaux de qualité n'ont pas forcément à Lyon la place pour pouvoir s'exprimer.
Vous pourriez imaginer de faire une édition sans spectacle locaux, je crois que c'est important d'ancrer
les locaux dans des festivals locaux, ça me paraît être fondamental aussi.
Vous pensez que ça crée un lien avec les spectateurs qui viennent voir ou pas?
Oui, bien sûr. Je pense qu'on profite aussi un petit peu du public de ces gens-là. Prenons le cas du concert de l'Hostel Dieu, par exemple,
Franck Emmanuel Comte,
qui a décidé de faire le premier spectacle de sa nouvelle saison dans la tour passagère. C'est certain qu'on a bénéficié de son public, mais pas que. Attention, le public du concert de l'Hostel Dieu, tout le respect que je lui dois, est un public assez âgé, on va dire 60 ans et plus. Là, ce qu'on a eu pendant les trois jours, ils sont exprimés dans la tour, on était plutôt aux alentours de 30, 35 ans, 40 ans de moyenne d'âge. Donc on a apporté au concert de l'Hostel Dieu des gens qui peut-être ne seraient jamais allés les voir si ça n'avait pas été dans la tour. Et à l'inverse, on a bénéficié d'une partie de leur public pour pouvoir bien remplir. Et on l'a rempli trois fois, donc c'est bien.
Est-ce qu'il faut dire que vous avez presque triché parce que étaient sur scène des comédiens, des acteurs que les téléspectateurs de M6 peuvent peut-être connaître? Moi, je voulais venir et puis j'ai laissé passer la chose. Franck Pithiot, alias Perceval, et puis Jacques Chambon, alias Merlin. Merlin, l'enchanteur, tous les deux sont dans la série Kaamelott, cette série. Je crois qu'actuellement, enfin, elle est rediffusée, mais il me semble que ça fait quelques temps qu'il n'y a plus d'épisode.
Alors, ils sont en train, pour rien vous cacher, ils sont en train de tourner
un
long métrage qui va sortir, je pense, d'ici un an, mais ou peut-être un petit peu avant. En tout cas, ils sont en train de tourner. Oui, c'est certain que Jacques Chambon et Franck Pithiot ont également leur public et que cela a permis de, probablement de rajeunir un petit peu la moyenne d'âge, c'est certain.
C'était sur trois dates.
C'est pas triché, ça.
Non, je plaisantais. C'était sur trois dates, c'était presque l'ouverture. C'était le surlendemain, les samedis 4, lundi 6 et mardi 7 juin à 20h30. Les nouvelles métamorphoses. Et je voulais venir et j'ai laissé passer le truc. Ils reviendront, enfin disons le concert de l'Hostel Dieu, puisque
Isa Dieu reviendra probablement l'année prochaine, oui.
Il y a des chances. Isa, une autre question.
Est-ce qu'il y a une tranche d'âge que vous avez plus ou moins vu sur votre festival cette année ou l'année dernière?
On est relativement jeune, je trouve, dans notre jauge. On doit être aux alentours d'une petite quarantaine d'années.
Je trouve que c'est pas mal. Il y avait des enfants hier pour Cyrano.
Il y avait des enfants pour Cyrano.
Ils ont bien fait.
Bien sûr. Je dirais que Cyrano à 7-8 ans, c'est tout à fait recevable. Et c'est un joli texte. Et on les a vus à la sortie. Ils n'étaient pas en train de dormir. Ils étaient vraiment tout excités par les combats et l'histoire qui est dramatique. Bon, elle n'est pas non plus bouleversante d'originalité, mais elle est dramatique en tout cas.
Et est-ce qu'il y a un public que vous essayez de toucher, que vous n'avez pas encore forcément à pouvoir toucher?
On est un petit peu jeune pour savoir ça, d'accord, si on a des envies ou pas. C'est assez compliqué. Par exemple, on avait une soirée qui s'appelait Diapason, qui était orientée autour du baroque et de l'art chinois. J'espérais très sincèrement avoir beaucoup de Chinois. Je suis incapable de toucher la communauté chinoise, c'est tout à fait incapable, donc je ne sais pas comment faire. Oui, ça c'est compliqué. Les spectacles pour enfants, c'est compliqué pour nous. On aimerait bien, on a commencé cette année, on aimerait bien reprogrammer des spectacles pour enfants. Toucher les parents et les inciter à amener leurs enfants à un spectacle un mercredi ou un dimanche, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. C'est pas de la communication traditionnelle, il faut avoir un petit peu ses entrées au rectorat, ses entrées dans les écoles, et ça je ne sais pas encore faire.
C'est tout à fait destiné à ses enfants, non? Ce spectacle de tout à l'heure, là, en fin d'émission, en milieu d'après-midi, à l'heure du goûter, à 16h, les Contes du Faso, par la compagnie Mar Bayassa. C'est un spectacle gratuit, d'ailleurs, on pourrait peut-être en parler. Cherchez-vous une sorte de... Isa parlait des différents types de public. Est-ce que vous cherchez également une sorte de parité entre peut-être musique et théâtre, puisque vous présentez comme festival musique et théâtre à Lyon, et également, peut-être une parité également, enfin... Parité, c'est peut-être beaucoup plus difficile, mais les spectacles gratuits, enfin voilà, je voulais parler des tarifs, vous tentez d'en faire tout de même. Il n'y a pas de parité, c'est évident.
La parité entre musique et théâtre, elle est nécessaire, parce qu'effectivement, on cherche à être éclectique et équilibré, donc on essaie de faire la chose. Elle y est à peu près, oui. La parité entre gratuité et payant, c'est pas du tout...
Il
n'y a pas d'équilibre possible.
Mais vous tentez.
On tente. Il y a quelque chose qui est un peu décevant dans la gratuité, parce qu'on l'a analysé, cela, sur les fichiers qu'on a. Les gens qui viennent à des spectacles gratuits ne viennent pas à des spectacles payants. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le jeu, en tout cas ils jouent pas le jeu qu'on aimerait qu'ils jouent. Donc ils viennent assister au spectacle gratuit et ils s'en vont. Et on n'a pas d'achat de place de leur part pour des spectacles payants. Ce qui serait un petit peu le but, a priori, ce serait d'ouvrir le festival à des gens qui, a priori, n'ont pas l'envie nécessaire ou n'ont pas envie de risquer 22 euros ou 15 euros sur une date. Ils viendraient la première fois goûter à l'ambiance pour ensuite se positionner sur une place payante. Ça ne marche pas comme ça. On est sur une population de gens qui consomment, simplement.
C'est dommage, c'est un peu le cas aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le cas pour le Conte du Faso. Je ne parlais pas de propos plus général, mais je pensais à Conte du Faso par cette compagnie Mar Bayassa. Et bien ensuite, à 20h30, le spectacle dont vous avez un peu parlé tout à l'heure, Candide l'Africain, est également donné par la compagnie Mar Bayassa. Donc, absolument. C'est vrai qu'on pourrait penser une sorte de forme de rétribution. Mais à 16h, on vient vous voir avec les enfants. Voilà, c'est gratuit. Et puis à 20h30, et bien, les enfants sont couchés, l'un des conjoints les garde, ou bien, allez, on fait appel à une babysitter, n'importe.
C'est vrai que ça fait des soirées qui ne sont pas forcément bon marché, mais il se trouve que là, c'était un exemple typique. On a 280 places cet après-midi à 16h pour le Conte du Faso et il y a 65 places vendues pour ce soir.
Sur une jauge à 300 places, hein, c'est
ça? Enfin, 300, c'est vraiment le maximum avec les artistes.
Donc à 16h, c'est plein.
On ferme à 280 et c'est complet depuis longtemps. C'est complet depuis 10 jours.
Donc 16h, c'est complet, mais 20h30, c'est pas...
Alors voilà, donc ça c'est un petit peu un défaut aussi de notoriété de notre part, c'est-à-dire que peut-être les gens n'osent pas se positionner sur un spectacle dont ils ne connaissent rien. D'abord, Voltaire l'ont-ils lu, une troupe du Burkina Faso, ils les ont jamais vus, ou probablement jamais, ont-ils envie de les voir? Enfin, tout ça est compliqué, donc la prise de risque est presque nulle. Mais bon, on est là pour ne pas faire... Alors j'allais dire une bêtise, mais j'allais comparer deux chaînes de télévision, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas le faire. Donc je pense qu'on a besoin de continuer à faire des choses grand public. Il y en a. Les pièces de théâtre sont généralement grand public parce qu'elles plaisent aux gens et les gens viennent volontiers. On a en fin de festival, deux soirées avec Beethoven ce Manouche, qui est le pendant de Satané Mozart l'an passé. C'est plein à craquer. On a les deux soirs qui sont pleins. C'est un spectacle facile, entre guillemets. Les gens vont rigoler. Il va faire chaud. Il va y avoir plein de monde. Ça va être une fournaise totale. Les gens vont être éclatés. Donc ça va être génial. Et à l'inverse, on propose des choses comme Lili B, le Quatuor Varèse ou le Quatuor Debussy, qui sont beaucoup moins demandées parce que peut-être qu'il faut faire un petit effort de la part du public, j'entends, pour oser aller écouter des prestations comme ça. Maintenant, peut-être qu'on est un peu jeune pour donner confiance à notre public pour tout ce qu'on propose, mais je fais le pari, mais j'en suis certain, que dans 2 ou 3 ans, quoi qu'on propose, les gens viendront goûter.
C'est finalement un peu un piège, enfin, la gratuité, dans le sens où finalement les gens effectivement viennent plus parce que c'est gratuit qu'autre chose. Est-ce que finalement ce serait pas plus simple pour vous, enfin, que tous vos spectacles soient payants?
Ben, probablement. Ouais. Mais
après, des tarifs symboliques à 1 euro peut-être.
Oui,
des choses comme
après
ça,
des tarifs symboliques effectivement.
Mais bon, la gratuité symboliquement, c'est intéressant aussi.
Mais la gratuité, c'est un piège d'une manière générale. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de gratuité. C'est gratuit pour le public, mais c'est quelqu'un paye nécessairement. Ça, ouais. Il y a un coût de fonctionnement. Les artistes
forcément,
sont payés.
Forcément.
Évidemment, les artistes sont payés. On peut pas imaginer le contraire. Donc, c'est un piège. Mais ce qui est valable pour ça, est valable également pour le web et est valable pour la télé. Ouais, enfin, il y a plein de domaines dans lesquels on a instauré la gratuité par principe, et c'est une hérésie complète.
Je pense qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. Ce qu'on pourrait faire aussi, peut-être plus précisément, c'est analyser, regarder les spectacles qui restent à partir de ce mercredi aujourd'hui, de ce mercredi 22 juin jusqu'au 2 juillet. Il reste pile 10 jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à nouveau nous allons à nouveau nous projeter en avant. On va écouter un peu de tango, puisque ce sera la clôture. Alors, pour le coup, une clôture gratuite, hein, je crois, c'est ça. C'est le bal qui aura lieu le samedi 2 juillet à 22h30. À 20h30, c'est le spectacle de clôture par la Typica Roulotte, un concert assuré par la compagnie L'Ensemble Roulotte Tango. Et à 22h30, bal tango gratuit, qui est plutôt à l'extérieur, je suppose.
Oui, c'est devant la tour, comme on l'a fait l'année dernière avec un bal Renaissance. Cette année, ce sera un bal tango.
Bal tango. Donc, écoutons. Êtes-vous d'accord? Oui, j'ai trouvé de Astor Piazzolla, Liber Tango, le Adios Nonino, il me semble. Alors, il y en a pour 8 minutes. On n'écoutera peut-être pas ces 8 minutes parce que voilà, on l'indique aussi auditeur. Jérôme Salore devant se rendre à 16h à ce spectacle, devant préparer différentes choses pour ce spectacle de conte du Faso. Partir un peu avant la fin d'émission, donc Lisa, on trouvera des annonces à faire. Il y a des choses à l'opéra, il y a différents trucs. Écoutons Adios Nonino de Liber Tango. Je crois même que c'est Astor Piazzolla lui-même qui le joue. C'est ça, c'est une version que j'ai trouvée. Gérald, qui n'est pas présent aujourd'hui. Gérald, on te salue, hein, parce que je pense pas qu'il nous écoute non plus. C'est assez compliqué, mais il écoutera le podcast, comme tout un chacun. Donc Gérald, tu serais fier de moi, j'ai trouvé ça. C'est une version, je crois que c'est enregistré, c'est en 1974 à Buenos Aires. Astor Piazzolla est au bandoneon, il est accompagné par Arturo Schneider. Et puis aussi, enfin voilà, différentes. Non, je crois qu'ils ne sont que deux. Bon, en avant, nous sommes le samedi 2 juillet, mais pour l'instant, restez à l'écoute. Jérôme Salore a encore beaucoup à dire sur ce festival de la Tour Passagère qui bat son plein. On est aux 2/3, il reste encore un bon tiers. c'est cruel de faire ça. Hein. C'est cruel parce que c'est quand même beau, ce Adios Nonino. D'ailleurs, question que je peux vous poser à Jérôme Salor, organisateur de ce festival de la Tour Passagère, deuxième édition. Ils l'interpréteront, par exemple, ce morceau. Est-ce un standard des tangos
C'est un standard des tangos, c'est sûr. Alors, est-ce qu'ils l'interpréteront? J'en ai aucune idée. Ils sont totalement libres de leur choix.
Ça, c'est donc le samedi 2 juillet. Il y a également un bal ensuite. La musique du bal qui l'assure,
C'est typique à Roulotte aussi, qui assure la musique du bal. Et on espère avoir un maître à danser également pour pouvoir initier le public aux pas du tango les plus simples. Parce que le tango est d'une complexité sans nom.
Redoutable.
C'est presque de la danse sportive. Et donc, effectivement, il y a quelques pas probablement intéressants à maîtriser pour ne pas être totalement ridicule sur une piste de danse de tango.
Auditeurs, deuxième temps d'émission, 14h30, un peu plus. Nous recevons Jérôme Salor, déjà venu. Donc, je vous renvoie aux émissions 14 et puis 71 pour en savoir davantage sur ce personnage, sur Baroque et Plus, peut-être qu'on n'a pas beaucoup évoqué, sur la première édition de la Tour Passagère. Mais pour l'instant, à cette heure-ci, évoquons plus précisément cette deuxième partie de festival. Il reste encore une dizaine de soirées, à peu près, je crois, entre ce mercredi et puis le samedi 2 juillet. On vient d'évoquer déjà quelques-unes des soirées, notamment cette dernière, le samedi 2 juillet. Premier concert à 20h30, et puis ensuite, deuxième concert, mais bal plutôt, bal en plus gratuit, bal tango. Jérôme Salor, est-ce qu'il y a d'autres spectacles sur lesquels vous souhaiteriez mettre un coup de projecteur? Isa, est-ce que toi aussi tu as repéré différentes choses? Est-ce que on a évoqué quand même déjà l'Équateur de Bussy par exemple demain soir? On a aussi parlé de Candide ce soir.
Peut-être rappeler que nous avons programmé Louis Clavis également. Louis Clavis est un Lyonnais, certes toujours absent de Lyon parce qu'il travaille beaucoup.
Un grand nom, monde entier. De l'excellence.
Mais on parlait d'excellence. Voilà un garçon qui fait partie des meilleures choses possibles qui existent en jazz. Et pour cette soirée, puisqu'on est quand même un peu baroque à la base, hein. Louis Clavis c'est adjoint à un orchestre de musique baroque qui s'appelle Amaryllis, et ils vont réinterpréter à leur manière la musique baroque qu'ils aiment tous. Donc belle soirée en perspective, et ça, si je ne me trompe pas, c'est le mercredi prochain,
29 juin à 20h30,
ça Inspiration baroque.
Est-ce que ce sera le cas du surlendemain, le vendredi 1er juillet? Est-ce qu'il y aura encore un mélange un peu baroque moderne? Puisque
non.
Samuel Fernandez est-il...
Non, alors clairement, la soirée French Connection est française et plutôt moderne, puisqu'on est dans Debussy, on est dans Chausson, donc on a largement dépassé l'époque baroque. Mais
il me semblait que Samuel Fernandez était un peu jazzman ou un peu jazzy, non?
Ah, il a fait une soirée pour nous, il y a quelques années de ça, avec Mario Sanchez, autour des variations Goldberg. Donc lui, il les interprétait d'une manière, disons... traditionnel.
Classique, voilà, classique. Je me trompe. C'était
Mario
le pianiste
était
bulgare.
En face de lui sur un second piano et cassait l'ambiance ou créait l'ambiance selon les circonstances à sa manière à lui. Mais non, là on est loin du baroque, mais si on se souvient bien, Baroque et Plus, qui est l'association dont je m'occupe, qui organise ce festival d'une manière, on va dire, administrative, dans Baroque et Plus, il y a quand même et Plus. Et Plus va loin dans le temps, peut-être même dans les temps futurs, qui sait.
Isa.
Moi, j'aimerais juste revenir sur la pièce qui se déroule tout à l'heure à 16h, les Contes du Faso. Je voulais savoir où est-ce que vous, comment est-ce que vous avez rencontré cette troupe-là et qu'est-ce qui vous a...
J'ai rencontré cette troupe à Avignon l'année dernière et j'ai trouvé leur démarche absolument étonnante. J'ai vu de cette troupe le Candide africain de ce soir, j'ai vu de cette troupe les Contes du Faso.
On les nomme de cette vous avez indiqué leur nom, cette compagnie Marbassaya, c'est ça, je crois.
Oui, exactement, Marbassaya. Et j'ai vu également de cette troupe le Malade imaginaire de Molière. Et c'est tout à fait étonnant parce que ce sont des Africains, tous autant qu'ils sont, du Burkina. Et interpréter des textes classiques en français, donne une dimension à l'œuvre qui fonctionne. Parfaitement, c'est vraiment, il y a pas de faute de goût, c'est pas du détournement pour le principe de détourner, ça fonctionne parfaitement.
D'accord. La compagnie Marba Yassa, je me trompais, indiquons un peu les noms déjà, ça fait voyager les comédiens et le musicien. Les comédiens sur scène seront Gouba Jules, Ouedraogo Wilfried, Sangare Awa, Windiga, je me trompe, Justin, ainsi que Zongo Léon, et le musicien est Dembélé Drissa. Ça, ouais, c'est déjà évoquer ces musiciens, évoquer ces noms-là, c'est pas pareil. Par exemple, ça, on pourrait le faire aussi pour Cyrano. Vous avez évoqué Steve Ricard, qui était donc à la mise en scène et qui interprétait Cyrano. Sinon, il y avait également sur scène Laurie Contes, Pablo Favero, Pauline Clos, Olivier Lamblay. Je pourrais continuer, hein, ils étaient 19. Moi, je tiens presque à revenir comme ça, là, une seconde dessus. C'était génial, quoi. Et pouvoir écouter, pouvoir entendre ce texte, on peut le lire, hein, voilà, moi j'en ai une chouette édition, c'est très bien, c'est magnifique, mais pouvoir entendre la première scène, c'est illisible ça, la première scène. Hola, vos 15 sols, j'entre gratis, pourquoi ? Je suis chevalier de la maison du roi, vous, je ne paie pas, mais je suis mousquetaire. Pff, à la lecture, ça colle pas, et là, ce que je suis en train de faire, ça ne colle pas non plus. Le voir, ça marche. Les voit, ils veulent entrer en plus, ils arrivent à l'extérieur de la tour passagère, ils veulent monter sur scène.
Cette tour permet cette fantaisie de pouvoir entrer par tous les côtés et sortir par tous les côtés. Donc c'est vraiment magique.
Donc c'était un spectacle vraiment impressionnant, vraiment, vraiment, entendre ce vers-là, c'était beau. Il était bien porté par ces comédiens suisses. Merci Yaïsa de faire donc un petit coup de projecteur sur cette compagnie burkinabé, c'est ça ? Marba Yassa, ouais, qui sont présents à 16h tout à l'heure. A priori, auditeur, il n'y allait pas parce que c'est complet, mais à 20h30, il reste des places.
Absolument, à 20h30, il reste des places. Ce spectacle étonnant. Un petit coup de projecteur très rapide également sur une soirée qui est le jeudi 30, qui est Mozart à Paris avec deux musiciens internationaux aussi, Patrick Cohen-Hakanin et son épouse Béatrice Martin. Patrick est violoniste et son épouse est claveciniste. Ils viennent interpréter Mozart dans toute sa simplicité, dans tout son classicisme. Mais là aussi, dans la tour, tout se transcende, tout se transforme et tout devient magique.
La question de Gérald, excuse-moi Isa, c'est mon partenaire privilégié généralement. Isa, tu l'as également là depuis, on va compter les émissions, ça fait quoi? Ça fait 10 émissions que tu es avec nous, on s'en réjouit. Eh bien, ta question était très juste Isa, de manière générale, les spectacles, où allez-vous les chercher Jérôme Salor? Alors après on se doute que Quatuor Debussy et puis le concert de l'Hostel Dieu de Franck-Emmanuel Comte, c'est peut-être moins difficile, surtout le compteur de l'Hostel Dieu, parce que vous l'avez quand même indiqué, Quatuor Debussy ainsi que Louis Clavis, ils sont quand même pas très présents à Lyon. Mais ces autres spectacles, le Burkinabé, donc vous l'avez dit, c'est Avignon, c'est une bonne source, Avignon.
Avignon, c'est une bonne source, absolument. Il y a une grande diversité d'œuvres à Avignon. On va y aller le mois prochain, pendant 4 ou 5 jours, on va aller essayer de faire notre marché, comme on dit. Au-delà de ça, on a beau être un tout petit festival qui commence, on reçoit, sur l'année qui s'est écoulée, j'ai reçu à peu près 300 dossiers d'artistes, y compris des artistes illustres, qui ont des agents qui essaient de placer leur poulain dans toutes avec toutes les possibilités qui existent.
Mais c'est intéressant, parce qu'une jauge quand même à 300 spectateurs, des choses comme ça, ces conditions peut-être qui peuvent sembler un peu, enfin je sais pas, qui pourraient peut-être, enfin, dans l'absolu, leur déplaire. Non, au contraire, ça les intéresse. Vous avez parlé de magie tout à l'heure, c'est vrai que ça fonctionne.
Alors, ils ne connaissent pas tous la tour pour autant, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'objet en tant que tel. Et c'est là le problème, c'est que si je commence à recevoir des propositions de gens qui n'ont pas fait, j'allais dire, l'effort, mais qui n'ont pas tenté de voir ce que c'était que cette tour et si leur spectacle s'y adaptait, j'ai beaucoup de mal à ne serait-ce que lire ce qu'ils proposent. Et voilà, il y a ça. Et puis, il y a des gens qui sont venus cette année, qui sont venus, des artistes qui aimeraient jouer l'année prochaine ou dans 2 ans, qui sont venus, qui ont vu la tour, qui ont discuté avec moi, qui m'ont fait leur proposition et qui ont adapté déjà dans leur tête cette possibilité-là. Donc, je trouve important ça. Il y a beaucoup de choix, beaucoup d'artistes, beaucoup de compagnies existent. Il faut avoir envie de jouer dans cette tour d'une manière spécifique.
Et est-ce que vous pensez déjà à des nouveaux spectacles pour l'année prochaine? Vous avez déjà plusieurs pistes en...
Alors, j'ai probablement une tempête de Shakespeare qui sera donnée dans la tour l'année prochaine.
Ça pourrait se faire en anglais ou non? Ça, c'est inenvisageable.
C'est pas inenvisageable.
Trop pointu.
Ça devient très compliqué, ouais. On est quand même français.
Parce que c'est presque le théâtre du globe, un peu.
C'est vrai, vous avez raison. Mais la langue anglaise n'est pas parlée par les Français, de manière générale.
Et puis surtout, l'anglais de Shakespeare est peut-être
difficile. Il n'y a peut-être pas assez de bilingues pour comprendre.
Peut-être pas.
Mais vous jouez du Shakespeare comme il vous plaira, et d'ailleurs, déjà passé.
Comme il vous plaira, va. Non, il n'est pas passé encore.
Il arrive.
C'est dimanche prochain, me semble-t-il.
Oui, le 26 à 15h.
À 15h.
Ah, il y a l'équipe de France qui va jouer à ce moment-là. Mais justement, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde hier, alors que c'était la fête de la musique. C'était très bien. Et moi, ça pourrait me tenter. Parce que, Isa, on pourrait en parler tout à l'heure quand peut-être Jérôme Salor sera parti. Le foot, purée, les bleus, c'est quand même pas génial. Donc, dimanche à 15h.
Oh oui, mais
il faut soutenir quand même. Allez voir comment il vous plaira de William Shakespeare.
Mais j'ai déjà des propositions pour dans 2 ans. Il y en a 2. Les gens qui sont venus faire Le Songe d'une nuit d'été cette année auront un spectacle en préparation pour dans 2 ans. Et je leur ai demandé de le faire, en tout cas, parce que ce sont des gens qui ont eu aussi 4 jours de succès total et absolu dans la tour. Et les gens qui ont fait Le Cyrano de Bergerac viendront donc dans 2 ans avec un Ruy Blas de Victor Hugo. Et là, ça va être aussi quelque chose de très intéressant. Donc voilà, on arrive à programmer avec un petit peu de recul et un petit peu de temps d'avance. Ça devient très sérieux, du coup. Mais il faudrait faire attention de ne pas se prendre la grossette, hein, quand même.
Je voulais vous demander également, Jérôme Salor, cette édition de la Tour Passagère. J'ai mangé ma question. Les dates, les spectacles qui restent, j'ai perdu le fil. Isa, une question, sauve-moi. Non, quelque chose. Gérald n'est pas là. Je ne sais plus. Non. Un blanc. De toute façon, Jérôme, il va presque être temps de vous libérer.
Moi, je voulais encore vous poser une question par rapport à dimanche qui arrive. Vous jouez une pièce de Shakespeare aussi. Vous en jouez souvent du Shakespeare.
Je pense que ça sera tous les ans. Ça sera tous les ans. C'est la structure même du théâtre élisabéthain, donc c'est Shakespeare avant tout. Et ce théâtre-là se prête parfaitement, sans adaptation, à ce genre de lieu. Donc oui, il faudra du Shakespeare chaque année, c'est sûr. Mais il y a du choix, on a de quoi faire quelques années avant d'épuiser le répertoire.
Parce que c'est vrai que c'est quasiment... c'est l'un des auteurs au théâtre les plus joués. Enfin, il est joué partout à chaque fois.
Il est joué partout à chaque fois, mais c'est tellement beau. Bon. Les textes sont quand même vraiment intéressants. L'année dernière, on avait Hamlet. C'était a priori compliqué. C'est un texte grave. C'est une mise en scène lourde. Ça durait 5 heures. On a fait le plein 7 fois. Donc oui, les publics français, quand le spectacle est en français, j'insiste un peu, est fan de Hamlet aussi, ou fan de Shakespeare d'une manière générale. Oui, il n'y a pas de problème. Et mais voilà,
et comment vous
les grands classiques finalement.
C'est l'engouement finalement pour Shakespeare, un peu partout de toute façon en France.
Enfin, oui. Cette beau texte, c'est vrai que ce sont des textes très actuels.
Ses textes ont généralement une résonance auprès des gens qui est assez importante un petit peu partout. Au final, on remarque c'est programmé partout, quoi.
Oui.
Shakespeare à chaque fois.
Ça marche bien. Les gens se reconnaissent dans ces textes et dans les histoires qui sont racontées. Ce sont de belles histoires. Enfin, ce sont des histoires quand même terribles souvent, mais ce sont des histoires qui sont complètes.
Et on a l'impression qu'il n'y a pas de tranche d'âge même.
Je suis d'accord.
Vraiment vraiment générationnel.
Absolument.
Si, j'ai retrouvé mon ultime question, puis après je pense qu'on vous libérera. Pour ce qui est de la communication, vous arrivez, vous parliez tout à l'heure, on n'arrive pas à toucher tous les publics, vous parliez par exemple du public asiatique, public chinois de Lyon. Est-ce que la communication s'assure assez bien? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez mis des bâtons dans les roues?
La communication, c'est une question d'argent avant tout. Si vous avez énormément d'argent à dépenser, vous pouvez occuper les murs de Lyon pendant 15 jours, 3 semaines sans aucune difficulté. Enfin, c'est pas tout à fait exact parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. En ce moment, d'abord, il y a l'euro. Donc il y a beaucoup de panneaux qui sont pris pour les matchs de foot. Il y a les nuits de Fourvière qui classiquement prennent les trois quarts de l'affichage lyonnais pendant le temps du festival des nuits. Mais on a eu quand même cette année, de la part de la ville de Lyon, un effort de communication supérieur à l'année dernière. L'année dernière, on avait eu à peu près une semaine d'affichage sur les panneaux de co et quelques panneaux de co, pas beaucoup. Cette année, on a eu 2 semaines proposées par la ville de Lyon et beaucoup plus de panneaux. Ça fait la différence. C'est évident que ça fait la différence.
Vous l'avez dit, la billetterie.
La raison pour laquelle la billetterie a été plus importante que l'an passé est liée probablement aussi à cet effort de communication qu'on a pu faire.
Et ça, en période d'euro, c'est assez beau, assez bien. J'en bredouille. En période également de nuit de Fourvière, c'est vrai que c'est. C'est courageux de votre part là, de monter ce festival, de monter cette tour.
On est dans une cour qui est tellement pas la nôtre qu'on risque rien. Les nuits de Fourvière, c'est 4700 places pour une soirée à peu près. Hein. Donc Radiohead, 4700 places vendues. Je pense qu'ils ont dû mettre 10 minutes pour vendre les 4700 places. C'est pas beaucoup plus que ça. Nous, 4700 places, ça correspond à 15 jours de festival. Donc on n'est pas dans la même cour et c'est pas grave. Mais Dominique Delorme, que je connais un petit peu, avec qui on a eu l'occasion de discuter. Je pense qu'il y a matière l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas, à imaginer une des soirées des Nuits de Fourvière dans la tour passagère. Une forme de collaboration ou d'association le temps d'une soirée. Je pense que c'est jouable et ça serait extrêmement intéressant d'imaginer ça.
Prenons rendez-vous 2016, que dis-je 2016, 2017 ou bien 2018 pour tout d'abord, ils ont vérifié s'il y aura encore du Shakespeare, vérifier aussi si Ruy Blas...
Je pense qu'il y en aura toujours.
Il y en aura toujours, tu as raison, Isa. Vérifier pour constater que les exilés avec Steve Ricard seront bien présents, puisque voilà, c'est ça, c'est un collectif, pour vérifier, enfin pour constater également si le concert de l'Hostel 2 sera bien revenu, enfin avec peut-être... Franck Pithiot, Alexandre Astier, éventuellement pour d'autres choses.
Il est difficile à joindre.
Difficile à obtenir. Je pense que voilà, 14h, 15h, 3h moins quart, je pense qu'il est temps de vous libérer. Ce qu'on va faire, auditeurs, c'est qu'on va retrouver cette soirée du 2 juillet. On va la remettre. On va remettre la fin de cette piste Adios Nonino. Comme ça, on est à la clôture de cette deuxième édition de la Tour Passagère. Attention, auditeurs. On va la clore cette édition en l'écoutant, mais vous, si vous souhaitez y aller, c'est peut-être l'ultime chose que je peux vous demander, Jérôme Salor, les renseignements techniques, pratiques, comment est-ce qu'on peut acquérir ces places? Est-ce que d'ailleurs il y a quand même quelques soirées complètes, c'est ça? Mais bon, on vous appelle pour vérifier.
Oui, mais il suffit de vous appeler, il y a un numéro de téléphone sur le site internet www.latourpassagère.com. Donc il y a tout ce qu'il faut, téléphone, on peut acheter des billets en ligne, et puis on peut aller sur le site à partir des 18h, c'est finalement ce que je recommanderais le plus. Il va faire beau pendant quelques jours encore là, venez vous balader sur les quais de Saône.
Ah, c'est agréable.
Venez boire une bière, c'est de la grillette, c'est de la bière locale.
On peut repartir avec les chaises encore, le mobilier d'Emmaüs.
Et les tables d'Emmaüs, effectivement ce partenariat est prolongé. On peut repartir avec le gobelet du festival aussi, c'est formidable. Et on peut voilà, partager un bon moment avec nous, ça sera formidable, on vous attend en tout cas.
Et pour avoir juste un coup de vue sur les tarifs, enfin les tarifs sont quand même assez accessibles, hein. C'est pas non plus...
Voilà, c'est sûr que si on est une famille de 5 enfants, ça fait beaucoup, mais on est à 22 euros en tarif plein, 15 euros en tarif réduit, 8 euros pour les enfants quand ce sont des spectacles pour enfants. Donc voilà, je pense que c'est accessible. Là aussi, pour parler des nuits de Fourvière, c'est plutôt 30 ou 40 euros. C'est normal, voilà, on n'est pas dans les mêmes cours.
www.latourpassagère.com tout accroché sans accent sur l'avant-dernier e.com, voilà. latourpassagère.com, et puis vous obtiendrez tous les renseignements. Moi, j'aime bien naviguer sur ce site. C'est, je sais pas, il y a une sorte de, comment nomme-t-on ça, l'ergonomie, enfin les panneaux défilent un peu, enfin, oui, c'est assez agréable.
On a des stagiaires en communication qui commencent à faire le boulot correctement.
Merci beaucoup, Jérôme Salor.
Merci infiniment.
Merci beaucoup. Isa, on reste là, on écoute la suite de Adios Nino, et donc voilà, on vous dit adios, on vous dit à bientôt, et une prochaine fois, l'année prochaine ou une autre occasion.
Nous en avons terminé avec ce festival La Tour Passagère. Nous en avons terminé également avec Astor Piazzolla, Liber Tango. C'est un CD extrait d'une compilation, c'est le numéro 3, je crois qu'il y a 10 CD. C'était Astor Piazzolla lui-même qui a été enregistré en 1974 à Buenos Aires. Il était au bandoneon, accompagné par Arturo Schneider, qui est au sax, et puis au Nonetto Electronico. Ce sera le concert qui fermera cette deuxième édition de la Tour Passagère le samedi 2 juillet à 20h30, le concert payant, et puis je ne me trompe pas pour l'horaire, 20h30 pour le concert. Le concert assuré par l'ensemble de la Roulotte Tango, et puis 22h30, ce sera le bal qui est ensuite. Quelques annonces à faire en fin d'émission, puisque Jérôme Salor, notre invité de cette première partie, même de l'essentiel de l'émission, nous a quittés. Isa est en train de voir différentes choses, différentes annonces à faire, et puis moi je prends le pas. Il y a enfin l'enlèvement au Serail va commencer. Et d'ailleurs, on vient de terminer en musique, on pourrait recommencer tout de suite en musique. Je vais la mettre en fond sonore. C'est un extrait. C'est le ténor Fritz Wunderlich qui chante dans l'enlèvement au Serail. Il incarne Belmonte. Wenn die Freunde Tränen fließen, ce sera donc. Il n'a pas encore commencé à chanter, alors moi je commence à parler. L'enlèvement au Serail commence. Il commence ce mercredi 22 juin. C'est donné jusqu'au début juillet. Ah bah le voilà. Allez, je laisse un peu chanter, puis j'indique ce que ça va être. C'est donc un opéra de Mozart et c'est l'opéra qui clôt la saison 2015-2016 de l'Opéra de Lyon. Cet opéra, alors je peux en dire deux choses, c'est que tout d'abord il sera donné au sein de l'opéra même, sur la scène principale, il sera donné de ce mercredi 22 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, la première est à 20h, jusqu'au vendredi 15 juillet. Ce sera 20h également, il y aura une unique représentation dimanche 26 juin, ce sera à 16h. Sinon c'est plus ou moins tous les deux jours, mercredi 22, vendredi 24, dimanche 26, mardi 28, jeudi 30, et puis ensuite ça commence en juillet. Et puis, cet opéra sera également donné, c'est le deuxième intérêt, cet opéra sera donné dans le cadre de la projection annuelle opéra sur grand écran assurée par l'Opéra de Lyon. Ce sera donné de manière gratuite, ce sera sur un écran géant, ce sera donné depuis l'Opéra de Lyon en simultané dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, écoutez donc un peu toutes ces villes, Ambérieu-en-Bugey, Aurillac, Bellegarde-sur-Valserine, Chamonix-Mont-Blanc, oui, Clermont-Ferrand, Cré, Divonne-les-Bains, Issoire, Lyon, bien entendu, Montélimar, Moulins, Saint-Quentin-Falavier, Thonon-les-Bains, Usson-en-Forêt, Valence, ainsi que Villiers-Morgon. Donc si vous souhaitez assister à cette projection, eh bien ce sera donc dans toutes ces villes que j'ai nommées. Alors à chaque fois, c'est sur un endroit bien défini. Par exemple, à Clermont-Ferrand, ce sera la place de la Victoire. À Villiers-Morgon, ce sera le parc de la mairie. Et puis à Lyon, pour ce qui nous intéresse, ce sera la place Bellecour, dans la fan zone, au sein de la fan zone. Ce sera donc une date unique, le samedi 9 juillet. À 21h30, Mozart sous les étoiles, c'est un spectacle gratuit. Si vous souhaitez des renseignements, eh bien allez donc sur le site de l'Opéra de Lyon, opéra-lyon.com, pour en savoir davantage. J'avais une autre annonce à faire, et puis Isa, ensuite, promis, je te laisse parler. L'autre annonce, c'est que Gérald s'y est rendu, il a beaucoup aimé la pièce donnée au théâtre de la Croix-Rousse, pièce également qui clôt la saison de la Croix-Rousse. Il s'agit des Précieuses Ridicules, une pièce de Molière, mise en scène par Camille Germzer. Je ne sais pas comment prononcer, Gérald l'a peut-être rencontré, il aurait pu m'indiquer. C'est toujours le texte de Molière, mais sous les sunlights du musical, avec force chansons et musique trépidante, claquettes, personnages imprévus, détournements, retournements, travestissements, artifices, néologismes et anachronismes. Cette pièce a commencé la semaine dernière, le jeudi 16, elle est donnée jusqu'à demain, jeudi 23 juin, c'est à 20h. Et Gérald a tellement apprécié qu'il en a fait un compte-rendu, mais immense, énorme, d'une longueur prodigieuse, néanmoins très intéressant, comme toujours. Allez donc sur le site pour voir ce compte-rendu sur ces Précieuses Ridicules. Il y avait une dernière pièce dont j'aimerais parler une seconde. C'était la pièce Quills, mise en scène par Jean-Pierre Cloutier ainsi que Robert Lepage, mise en scène dans le cadre des Nuits de Fourvière. Mais c'était au Théâtre de Célestins. Ça s'est terminé la semaine dernière, samedi, et c'était beau, c'était bien. Isa, foot, non ?
On parlait de danse tout à l'heure. Il y a un festival de danse qui commence à partir de demain. Ça s'appelle le Jour de danse. C'est dans le Doubs. Et ça commence demain jusqu'à samedi. Samedi 25. Et c'est un festival qui s'intéresse à toutes les formes de danse, en fait. Il y a de la danse, il y a aussi du cirque. Il y a beaucoup de jeux de corps. Il y a pas mal de personnes assez particulières, puisqu'on a des duos espagnols, italiens, allemands. C'est un festival qui dure que 3 jours, mais pour tous ceux qui aiment la danse, ça peut être assez intéressant.
Comment trouver des renseignements sur ce festival?
Alors il y a un site internet. Le site internet s'appelle le compagnieparnell.com. Compagnieparnell.com.
Je mettrai ça sur le blog, comme toujours, auditeur. Et puis sinon, as-tu d'autres choses encore à indiquer? Les Nuits de Fourvière se poursuivent, on aurait pu peut-être recevoir aujourd'hui Serge Valetti, qui est à doublement l'affiche, puisqu'une pièce se continue. Il s'agit de Monsieur Armand Di Garincha avec Eric Elmosino. C'est donné dans la cour du collège Jean Moulin. C'est assez, ils sont dans un espace, le parc du collège Jean Moulin. Et cette pièce donc a déjà commencé. Elle a commencé la semaine dernière et est donnée jusqu'au 30 juin. Donc ça fait une belle série de représentations. Et commence ce soir la Stratégie d'Alice, une pièce tirée de l'Isistrata d'Aristophane. C'est donné ce soir, ce mercredi soir. C'est donné, je crois, sur seulement quelques dates, jusqu'à dimanche, me semble-t-il. Je n'ai pas tous les renseignements ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que le texte d'Aristophane, une pièce qui date de mettons 420 avant Jésus-Christ, peut-être 410, quelque chose comme ça, écrite en grec, et bien cette pièce, Serge Valetti en a assuré la traduction, et c'est assez particulier quand même. J'ai pu commencer à lire le texte, et c'est hyper actuel, vachement moderne. Il y a un paquet de gros mots d'insanité prononcés. C'est normal, c'est le propos de la pièce, hein, des femmes qui font la grève du sexe pour mettre fin à la guerre. Donc voilà, les maris, s'ils veulent continuer à voir leur femme, à côtoyer, à fréquenter leur femme, eh ben il faut qu'ils arrêtent la guerre. Je n'ai lu que la première scène. C'est assez gratiné, quoi, et ça peut être bien. C'est donné dans le cadre des Nuits de Fourvière, c'est donné la petite scène, la petite salle, j'aurais pu dire, l'Odéon. Quand on entre dans les Nuits de Fourvière, ce n'est pas le théâtre principal qui est sur la droite, c'est plutôt en haut sur la gauche. Donc Serge Valetti, vraiment très intéressant, j'ai pu l'avoir longuement au téléphone cette semaine, et il faudra qu'il vienne, hein, parce qu'il m'a tenu des propos sur la traduction qu'il a pu refaire donc de cette pièce, et puis sur Monsieur Armand Di Garincha également. Enfin, il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est un personnage qui n'est pas lyonnais, personnage plutôt du sud de la France, marseillais, je crois. Il me semble qu'il est parfois au théâtre de la Criée. S'il revient, il faudra lui mettre la main dessus. Isa, encore 2-3 minutes, parce que Pascal est en train de traîner. Le blues des canuts va commencer. Promis, on lui cédera l'antenne. On va pas trop continuer. On va pas trop déborder. Isa, ouais.
Oui, et pour continuer sur les nuits de Fourvière, il y a une pièce de théâtre que je trouve assez intéressante qui s'appelle La Stratégie d'Alice.
C'est dont je parlais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Serge Valetti. Elles sont belles, hein, les femmes qui sont à l'affiche.
L'air quand même très très intéressant.
C'est la petite scène, enfin la petite scène, c'est l'Odéon. Sur la scène principale, est-ce que tu sais ce qu'il y a? Moi, je pourrais déplier le petit programme qui est donné. Qu'est-ce qu'il y a ce mercredi 22? Je sais que sera donné la semaine prochaine, le jeudi 30 juin, une soirée un peu liée peut-être à Pasolini. Sono Pasolini, une nuit italienne donnée notamment par Giovanna Marini. Ce sera le 30 juin, donc je disais, dans la scène de l'Odéon. Mercredi prochain, c'est Feu Chatterton. On les a déjà programmés on a déjà pu les entendre dans Spectaculaire, et puis il y a plein de choses. Il y a Baryshnikov qui sera présent, Letter to a Man, un spectacle de Robert Wilson, du 23 au 26 juin. Il y a plein de choses, mais ouais, les saisons commencent à se terminer un petit
prochain,
peu.
Ouais.
Oui, voilà, jeudi prochain. Mais sinon, les choses commencent à se terminer. Théâtre de la Croix-Rousse, il reste encore quelques dates terminées.
Et éventuellement, pour les fans de musique, il y a le concert de Zazie le 1er juillet. Si vous aimez Zazie... Voilà. Elle sera aux Nuits de Fourvière le 1er juillet.
C'est peut-être complet. C'est peut-être complet.
Ouais, j'imagine.
Allez, il nous reste encore 30 secondes. On va laisser Pascal prendre place pour le blues des canuts. A priori, son bâtard devrait avoir lieu aujourd'hui à 16h. 17h, on n'arrête pas le prog. 18h, méga combi. Et puis 19h, le canut info, comme tous les mercredis. Isa, t'as un dernier petit truc, non? Tu trouves quelque chose? Ou c'est. Les annonces d'Isa, éventuellement auditeurs, vous les retrouverez sur le blog. Si jamais il trouve des choses à me dire, il me les indiquera, je les consignerai sur le blog.
Sinon, eh bien, prenons rendez-vous pour la dernière de la saison. Ce sera la 104e, mercredi prochain, le 29, avec Michel Chomara, qui sera accompagné par Julien Adeler pour parler de cette exposition Pasolini, una vita violenta, qui est donnée à une exposition qui se trouve à la bibliothèque municipale de Lyon. C'est dans l'espace exposition qui est tout en bas au rez-de-chaussée. Donc Michel Chomara, commissaire d'exposition, sera avec nous. Gérald sera de retour, donc on pourra questionner ce commissaire d'exposition à plusieurs voix. Et vous verrez, ce sera très intéressant comme toujours. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu, 102.2 de la bande FM, radiocanu.org. Et puis voilà, sortez aussi un peu, il fait chaud. Ouais non, restez chez vous, écoutez la radio, c'est bien mieux. Isa, ciao.
Ciao.
Allez les Bleus quand même, qui jouent dimanche après-midi. Et puis on se voit mercredi prochain pour faire débrief du match.
À mercredi prochain.
Salut. Ciao.